Les regrets d'un mourant. Deuxième méditation, l'étude de la parole de Dieu. Mes chers amis, dans le même ordre d'idées dans lequel dimanche dernier, je commençais d'exposer sous ce titre « Les regrets d'un mourant », la vue nouvelle qui lui vient de bien des choses qu'il voudrait maintenant avoir faites autrement, et qu'il voudrait faire autrement s'il était rappelé de son tombeau à demi ouvert. L'une des plus importantes est l'étude que nous faisons de la parole de Dieu. Ah, certainement, on se dit alors, que j'aurais dû agir autrement à l'égard de la parole de Dieu, l'étudier plus profondément et la mieux posséder pour la mieux pratiquer, en même temps que pour pouvoir la mieux communiquer à d'autres. Arrêtons-nous quelques courts instants sur cette pensée salutaire pour humilier ceux pour lesquels vient la fin du temps, et pour éclairer ceux auxquels le temps est encore donné, mais qui ne savent pas jusqu'à quand. Qu'est-ce que la Sainte Écriture ? Jamais les hommes ne pourront expliquer comment elle s'est formée, ni en particulier comment l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme y s'y sont combinés et pour en faire à la fois une parole divine et haute comme les cieux, et une parole humaine est toute rapprochée de nous. Cela n'est pas moins difficile à expliquer qu'il ne le serait d'expliquer comment s'unissent en Jésus-Christ la nature divine et la nature humaine. Et ce rapprochement n'est pas de moi, mais de l'Écriture, qui s'appelle elle-même la parole écrite et qui appelle Jésus-Christ la parole vivante. Quoi qu'il en soit de la manière dont elle s'est formée, l'Écriture sainte, c'est le ciel parlé sur la terre. Ce sont les maximes du royaume des cieux qui, dans un langage humain, sont communiquées aux hommes, comme si le royaume invisible était descendu au milieu d'eux et leur eût été mis sous les yeux. Il n'y a aucun autre livre, même des meilleurs, qui, comme celui-là, nous communique les mystères du royaume des cieux. Ils sont tous mêlés d'erreurs humaines. L'Écriture seule en est exempte. Elle est le livre de Dieu qui est tout plein de la vérité de Dieu. En elle, nous entendons parler Dieu par le Saint-Esprit. Nous voyons Dieu, l'homme, le présent, l'avenir, le temps, l'éternité, décrits tels qu'ils sont. Si quelqu'un s'est ainsi rendu compte de ce qu'est l'Écriture, il ne lui sera pas difficile de confesser l'usage qu'il en doit faire. Nous devons interroger l'Écriture comme nous voudrions interroger un ange du ciel que Dieu enverrait dans ce moment tout exprès pour nous en instruire, ou ce qui est bien mieux encore, comme nous interrogerions notre Seigneur Jésus-Christ, si nous l'avions en ce moment près de nous et que nous puissions lui parler et l'entendre. Et en effet, nous lui parlons et nous l'entendons quand nous lisons la Sainte Écriture, comme elle nous le révèle. Elle nous révèle toutes choses par son esprit et de sa part. Oh, comment pourrons-nous entourer ce livre d'assez d'attention et de respect? Sans doute, ce n'est pas la vérité qui nous sauve, mais ça n'est le chemin. Ce n'est pas le salut, mais c'est le livre qui nous révèle notre salut, sans lequel nous ne pourrions jamais le connaître, et par lequel, à proportion que nous l'aurons mieux connu, nous connaîtrons mieux aussi Jésus, le Sauveur de nos âmes. Nul chrétien ne contestera la vérité de ses principes, et pourtant, qu'ils sont rares ceux qui étudient profondément les Écritures. La plupart les lisent superficiellement et se bornent à quelques grandes vérités générales, au lieu de pénétrer toujours plus avant et de se rendre compte de tout, autant qu'ils le peuvent, selon qu'il est écrit « Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants ». Et pourquoi cette singulière contradiction avec nous-mêmes? C'est à cause des difficultés que présente cette lecture. Il faut en convenir, quand on commence à la faire, on y trouve bien des difficultés et des obscurités, et comme il faut beaucoup de travail pour les dissiper, et que l'esprit de l'homme est naturellement paresseux et lâche, on perd peu à peu courage, et on se borne en lisant et en relisant l'Écriture, à un travail toujours uniforme, qui pénètre à peine au-delà de la surface, qui n'apprend pas de choses nouvelles, et qui, en reprenant toujours les mêmes choses, nous inspire même quelquefois une sorte de fatigue, comme si la parole de Dieu n'était pas intéressante, comme si elle n'était pas capable de nous instruire toujours et toujours, comme si elle n'était pas inépuisable, comme Dieu lui-même. Gardons-nous de croire cependant que ces difficultés sont invincibles. Non, mes amis, mais il faut prendre de la peine, et là, comme dans la prière et dans toutes les parties de la vie chrétienne, Dieu veut que l'homme soit ouvrier avec lui. La connaissance de la Bible, le goût de la Bible, est le fruit et la récompense de cet humble et sincère et persévérant travail. Ah, que chacun retourne à sa Bible, avec une ardeur nouvelle. Prenez livre après livre, en cherchant, non pas à recueillir seulement de cette lecture des sentiments généraux d'une piété sensible, mais une connaissance approfondie et croissante du royaume des cieux. Étudiez un livre jusqu'à ce que vous l'ayez compris aussi bien que vous le pouvez, et puis passez à un second, et puis à un troisième, et ainsi de suite, et vous trouverez que, dans une seconde et une troisième lecture, bien des difficultés insurmontables en apparence se dissiperont, et quand même il en restera, vous n'en recueillerez pas moins le fruit du travail que vous aurez fait devant Dieu. N'acceptez pas de cette étude même les livres les plus difficiles, les prophètes, les petits prophètes que beaucoup de chrétiens laissent de côté comme des livres inintelligibles. Si on veut prendre la peine de les étudier, on verra qu'il y a là une multitude de choses fort intéressantes. Il y a d'ailleurs, par la bonté de Dieu, de bons livres, de bons commentaires sur certaines parties de l'Écriture qui peuvent servir de clé pour les autres, et en s'aidant de ces bons livres, on pénètre toujours plus avant dans la connaissance de la parole de Dieu. Et puis, on s'appliquera plus particulièrement aux parties de ce livre qui s'adressent plus particulièrement aux chrétiens, mais, je le répète, sans en négliger aucune. Ce sera le fruit, ce sera la récompense de ceux qui seront ainsi fidèles et persévérants de comprendre la parole de Dieu, de l'aimer, d'y pénétrer toujours plus avant et de trouver le temps toujours trop court pour la bien connaître. J'ai connu un homme qui passait tous les jours 7 heures à étudier la Bible et qui trouvait dans cette étude des charmes toujours croissants. Si quelqu'un, dans la foi, usant des ressources que Dieu a mises à sa disposition et comptant sur Dieu pour le conduire, donner suite à ses pensées qu'il ne m'est pas possible dans ce moment de faire autre chose qu'indiquer, il trouvera dans la parole de Dieu des trésors qu'il n'avait pas soupçonnés encore. Alors, elle deviendra pour lui un appui aussi ferme qu'elle l'a été pour Jésus tenté dans le désert. Alors, elle deviendra pour lui ce qu'elle a été pour les saints du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament dans les portions de l'Écriture qui existaient avant eux. Ce qu'elle a été pour David, ce qu'elle a été pour Daniel, ce qu'elle a été pour saint Paul, ce qu'elle a été pour tous les saints de Dieu. Que Dieu nous en fasse la grâce à tous, et que celui à qui il n'est pas plus difficile de bénir en peu de temps qu'en beaucoup de temps, ni avec peu de force qu'avec beaucoup de force, veuillez faire tellement pénétrer dans vos cœurs les paroles que je vous adresse, qu'elles opèrent dans votre étude de la Bible une transformation pour laquelle vous bénirez Dieu durant toute l'éternité. Amen.